Chapitre 21. Université d'État Emmanuel Kant, Kaliningrad, Russie. Les dizaines de livres vénérables se consumaient sous les yeux horrifiés de Dimitri. Pourtant, le bibliothécaire n'accordait aucune importance à ce trésor qui partait en cendres. Ce patrimoine inestimable de la civilisation européenne qu'il avait passé sa vie à préserver, comme des générations de conservateurs passionnés avant lui. Toute l'énergie de Dimitri était consacrée à tirer Natacha par la taille, à l'éloigner du bûcher, centimètre après centimètre. Sa compagne empestait les sens. La moindre étincelle pouvait la transformer en torche. Quelques livres enflammés s'effondrèrent de la pile. L'un d'eux glissa, toucha presque la peau blanche de Natacha. Elle hurla. Un instant, elle eut l'impression que l'intense chaleur allait l'embraser, vivante. Dimitri voulut l'éloigner encore. Zaytine lui colla la kalachnikov sur le front. « Ta chérie va rester là, juste à la bonne distance pour qu'elle rôtisse, sans dorer trop vite. » Le bibliothécaire ruisselait dans la fournaise. Il prit la main de Natacha et la serra de toute la force qui lui restait. Le bûcher s'était momentanément stabilisé et brûlait comme un banal feu de bois. La voix cynique de Cortès le rendait fou.
« Dimitri, Dimitri, je fais l'effort de t'enseigner des vérités essentielles, alors concentre-toi un peu. »
Cortès s'approcha. Dans l'ombre de la capuche, un trou béant semblait remplacer son visage.
« Le principe du théorème de Cortès est assez simple, en fait, mais pour le comprendre, il faut que tu oublies toutes tes connaissances mathématiques. » « Dimitri, imagine par exemple un objet rare, je ne sais pas, tiens, un vase chinois, du genre Ming. Imaginons qu'il n'en reste que 4 exemplaires au monde. Ces vases sont estimés, disons, à 3 millions de dollars chacun. Appliquons le théorème de Cortès. Tu brises 2 de ces vases. À ton avis, combien vaudront les 2 derniers exemplaires ?»
Des larmes coulaient des yeux rougis de Dimitri. Il ne pouvait détacher ses pupilles de la peau de Natacha, qui lui semblait fondre dans le halo flou des flammes, gonfler en cloques, puis partir en lambeaux. Une illusion, se rassura Dimitri, une simple illusion. Ne pas lâcher Natacha, ne pas céder à la panique. Tout ceci n'était qu'une mise en scène pour l'impressionner, le faire parler. Cortès hurla.
« Réponds, putain !»
Dimitri bredouilla.
6. Les derniers vases intacts valent 6 millions. »
Cortès éclata d'un rire dément.
« Eh non, tu n'as pas réfléchi, Dimitri. Tu es tombé dans le piège. 4 vases uniques. Si on en brise 2, on ne divise pas par 2 la valeur marchande du bien, mais on la multiplie, au carré. Les 2 derniers vases ne valent plus 3 millions chacun comme auparavant, mais 9. Pourquoi, Dimitri ? Parce qu'ils sont plus rares, tout simplement. » L'estimation dépend uniquement de la rareté de l'objet. Pourquoi alors l'argent, les diamants, les émeraudes valent-ils une fortune? Ce sont des métaux et des pierres comme les autres, de vulgaires cailloux. Leur seule valeur, c'est leur rareté. Réfléchis, Dimitri, on paye des types des millions simplement parce qu'ils sont les seuls au monde à savoir faire quelque chose, n'importe quelle connerie. Une façon différente de balancer un ballon dans un but, de gueuler dans un micro, de se foutre à poil devant une caméra, n'importe quoi, ce qui compte, c'est l'unicité. Tu as compris maintenant, Dimitri, le théorème de Cortès ? Mes 2 derniers vases Ming sont estimés à 9 millions chacun. J'en brise encore un. Combien vaut l'unique survivant ?
Tout se brouillait dans la tête de Dimitri. Le feu, la main moite et molle de Natacha, le canon glacé de la Kalachnikov, les délires de ce Cortès. Le bibliothécaire fit un effort de concentration.
La loi du carré. Le dernier vase vaut son prix au carré. 81 millions.
Gagné. 81 millions. Un prix de fou, non? Comparé aux 12 millions de départ, la valeur des 4 vases. Dimitri, tu comprends maintenant le bûcher? S'il reste 5 originaux de Kant, tout le monde s'en fiche. Mais si je possède le seul manuscrit, l'unique, le dernier d'une œuvre mythique, alors je dispose d'une véritable fortune entre les mains, le pouvoir absolu. Dimitri, sais-tu pourquoi cette équation fondamentale a été baptisée théorème de Cortès ?
Les joues du bibliothécaire étaient inondées de larmes.
Non.
Si tu en as assez, Dimitri, nous pouvons abréger. Tu m'indiques où est conservé le rapport Roscovitski et nous repartons comme nous sommes venus. Tout ceci n'aura été qu'un mauvais rêve.
Pour l'amour du ciel, je vous jure que je ne sais pas ce que...
La capuche de Cortès se balança de droite à gauche.
Comme tu veux. Nous continuons donc. Sache, Dimitri, qu'Hernán Cortés inventa ce théorème et l'expérimenta grandeur nature, si l'on peut dire. Je ne suis qu'un amateur à côté de lui. Quelques bouquins en allemand ou en latin réduits en cendres. Hernán Cortés, lui, en quelques mois, a détruit une civilisation millénaire, par simple cupidité, par simple désir de richesse et de gloire. En quelques semaines, pchit, effacer des tablettes les civilisations maya et aztèques. Dimitri, sais-tu ce qui est arrivé à la grande bibliothèque de l'actuel Mexico ?
Imperceptiblement, Natacha rampait et s'éloignait du brasier. Dimitri l'aidait, craignant à chaque instant que la main de sa femme ne lui glisse entre les doigts. Son esprit bouillonnait comme une lave en fusion. Quel rapport pouvait-il y avoir entre ce rapport Roscovitski sur l'Arche de Noé et cette fascination morbide pour les conquistadors ?
Non, articula péniblement Dimitri.
Cela va t'intéresser. Les Mayas étaient parvenus à une société particulièrement avancée, et ils étaient notamment capables de calculs extraordinaires en astronomie. Les Mayas furent renversés par les Aztèques vers 1500, mais les deux cultures se fondirent en une seule, et les Aztèques conservèrent les milliers d'ouvrages mayas dans le Yucatan, toute la mémoire d'un peuple. Dimitri, à ton avis, que firent Cortés et ses hommes en 1521 ?
D'autres pensées continuaient d'incendier le crâne du bibliothécaire. Peu à peu, une étrange vérité prenait corps. Il existait un lien entre la légende de Noé et celle d'Hernán Cortés. Un lien simple, évident, et pourtant sidérant dans ses conséquences. Les mots de Cortés cognèrent à ses tempes.
« Ce n'est pas compliqué, Dimitri. Théorème du carré oblige, Cortés détruisit tout. Secondé par le moine catholique Diego de Landa, il brûla tous les écrits, toutes les traces de la culture maya. 70 tonnes de documents, à ce que l'on raconte. Des sauvages, vas-tu me dire, Dimitri. Des fanatiques, des êtres stupides, croyant avoir affaire à des indigènes incultes. Oh que non. Hernán Cortés était un homme cultivé. Diego de Landa parlait la langue aztèque. Mais ils appliquèrent à la lettre le théorème. Ils détruisirent absolument tout. À l'exception d'un codex, un seul codex, qu'ils envoyèrent à Philippe II, le roi d'Espagne. Ce codex se trouve encore au musée des Amériques, connu dans le monde entier sous le nom de Codex de Madrid, la seule trace écrite d'une des plus brillantes civilisations que la Terre ait portée. Non, Dimitri, Hernán Cortés n'était pas fou, bien au contraire. Quel présent plus prestigieux aurait-il pu offrir à son souverain ? Des galions aux cales emplies de butin, certes, mais rien ne pouvait atteindre en pouvoir, en puissance, en prestige, l'équivalent de ce codex de Madrid. Le pouvoir absolu, en un seul et unique objet. Comprends-tu maintenant ?
Noé, Hernán Cortés, le rapport Roscovitski. Natacha, dont la main semblait fondre dans sa paume, comme une poupée de plastique abandonnée au bord d'un âtre. Impossible de connecter davantage ces éléments entre eux.
Oh, oui.
Cortés serrait le volume rouge de la critique de la raison pure entre ses bras. Il posa son regard sur le bûcher.
Un pur génie, cet Hernán Cortés.
Tout à coup, Cortés toucha le brasier de sa botte. Une épaisse fumée s'éleva. Une dizaine de livres glissèrent. La Kalachnikov de Zeytin s'approcha de Dimitri pour lui interdire tout mouvement. La robe blanche de Natacha prit feu. Dans un réflexe désespéré, la femme se recroquevilla et posa ses deux paumes sur les flammes naissantes. Elle les étouffa pendant que l'insoutenable douleur de ses mains brûlées vives déformait chaque muscle de son visage.
Avançons, Dimitri. Alors, ce rapport Roscovitski.
Natacha leva vers Dimitri des yeux implorants. Elle n'avait pas seulement été belle. Elle l'était encore,
le serait encore des mois, des années dans ses bras.
« Au second étage, » fit Dimitri d'un ton monocorde. « Salle 302, quatrième rangée, troisième étagère, un carton bleu, banal, discret. Personne ne peut le savoir, sauf moi. L'intégralité du rapport Roskovitski se trouve là. Personne ne l'a ouvert depuis 50 ans, pas même moi. »
Cortés fit signe à Zaitine. Le mercenaire revint 2 minutes plus tard et tendit un dossier cartonné à son chef. Cortés en vérifia le contenu. Le visage sombre sous la capuche, comme bercé par les flammes, acquiesça de satisfaction.
« Une pièce de plus, » murmura Cortés. « Au moins, celle-ci ne nous échappera pas. Tirons-nous maintenant. On appellera dès que l'on pourra Morad à Toulouse. »
Cortés se tourna vers le couple de bibliothécaires. Natacha avait rampé à plus d'un mètre du brasier. Elle empestait encore les sens. Elle respirait plus lentement maintenant, comme un plongeur qui reprend son souffle après une descente en apnée. Dimitri, debout à côté d'elle, contenait sa colère en observant Zaitine ranger le rapport Roskovitski dans son sac.
« Eh bien, tu vois, Dimitri, ce n'était pas si difficile. »
Ni le bibliothécaire ni Natacha ne virent, au bout de la manche du long manteau noir, les deux doigts de Cortés se superposer perpendiculairement pour former, une fraction de seconde, une croix. Zaitine, chien fidèle, attendait le signal. La crosse de la Kalachnikov balaya l'espace, puis heurta avec violence le sommet des livres enflammés. Le bûcher s'écroula. Natacha n'eut le temps d'esquisser aucun geste avant de se transformer en torche vivante. Cortés, Zaitine et ses hommes sortaient déjà. Natacha se releva. De hautes flammes bleues dévoraient sa robe, son cou, son visage. Elle ouvrit les bras, croix de feu d'une secte de l'enfer. La porte de la bibliothèque claqua. Dimitri fixa les gesticulations désespérées de sa femme, hébétée, incrédule. Ses yeux rougis embrassèrent une dernière fois les immenses rayonnages de la pièce. La seconde suivante, le bibliothécaire se jeta dans les bras incandescents de Natacha. Ensemble, ils basculèrent dans le bûcher.